France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings.
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
Isn't that because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, hey, moi j'aime bien les vieux.
Itzana.
はい。Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Elio Petri entre musique et politique. Bonsoir. Parmi les grands cinéastes italiens des années 60-70, Elio Petri fait figure de cas à part. Rendu célèbre en 1970 par le fameux « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » et par la Palme d'or qu'il obtint 2 ans plus tard pour « La classe ouvrière va au paradis », Petri laisse une œuvre inclassable, politique, grinçante, irrécupérable et profondément musicale. De ce point de vue, Petri ne s'est d'ailleurs jamais trompé, qui a commencé par Piero Piccioni, poursuivi avec Louise Bacalov et traversé la deuxième partie de sa carrière avec Ennio Morricone. À l'occasion de la ressortie de La 10e victime, film de science-fiction prophétique et pop avec Marcello Mastroianni et Ursula Andress, nous explorerons donc ce soir les gouffres et les crêtes du cinéma d'Elio Petri. En deuxième partie de cette émission, le metteur en scène de théâtre Mathieu Bauer viendra nous parler de son dernier spectacle, éminemment musical et cinématographique, The Haunting Melody, actuellement au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et au mi-temps de ce cinéma song, Charles-Pierre Vallière évoquera dans sa chronique Essentiel BO les bandes originales de The Imitation Game et de Pionnier, signées respectivement par Alexandre Desplat et le groupe R. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci. Commencer ce nouveau numéro de Cinéma Song, un extrait d'un film extraordinaire, Le cri du sorcier de Jerzy Skolimowski, qui vient de ressortir en salle hier, malheureusement dans assez peu de salles, une salle à Paris, le Reflet Médicis, et puis quelques salles ici et là en région, notamment à Lille. Le cri du sorcier, c'est un film qui date de 1978, qui avait eu le grand prix spécial du jury à l'époque. Film un peu oublié, tout comme malheureusement régulièrement les films de Jerzy Skolimowski, cinéaste polonais donc d'origine, qui avait fait de magnifiques films dans les années 60, qui ensuite s'est exilé d'abord en Belgique, où il a signé Le départ avec Jean-Pierre Léaud, puis ensuite qui a fait l'essentiel de la suite de sa carrière à Londres, enfin en Angleterre en tout cas, avec notamment le fameux Deep End, qui était ressorti il y a 3 ou 4 ans en DVD et en salle, avec beaucoup de succès d'ailleurs, un film très pop et très beau, dont on avait parlé d'ailleurs dans Cinéma Song. Et aujourd'hui, donc Le cri du sorcier 1978, alors c'est un film extrêmement étrange, très sonore, très inquiétant et très étrange. Orange. C'est un film qui raconte l'histoire d'un trio, alors incarné par trois excellents acteurs, John Hurt, Susanna York et Alan Bates, trois grands acteurs anglais. Donc Alan Bates joue le rôle d'un espèce de sorcier, justement, d'une figure comme ça un peu démoniaque, qui vient vampiriser le couple donc formé par John Hurt et Susanna York, tout ça dans la campagne anglaise et sur fond de parties de cricket, avec une histoire que je ne vous dévoilerai pas. Il faut aller voir le film pour comprendre tout ça. Une histoire de cri qui tue, littéralement, un cri dont Alan Bates précisément est détenteur d'une certaine façon. Le personnage de John Hurt est aussi quelqu'un qui fait de la musique, qui est une espèce de chercheur sonore. On le voit dans son laboratoire. On a entendu d'ailleurs un extrait. Il est à la fois organiste à l'église et en même temps voilà, musicien contemporain, un peu à la manière des musiciens du GRM, du groupe de recherche musicale. Et voilà, ça donne un ovni total, un film vraiment étonnant, génial. Voilà, c'est rare que je me fonde comme ça dans des superlatifs, mais ça vaut vraiment le coup d'aller redécouvrir ce film, même si voilà, il est sorti dans peu de salles. Donc faites quelques kilomètres pour essayer de trouver le chemin de ce cri du sorcier totalement étonnant, signé donc Jerzy Skolimowski, qui est toujours en activité, voilà, puisqu'on avait vu de lui il n'y a pas si longtemps Essential Killing, autre film très étonnant avec Vincent Gallo. Alors une autre sortie, celle-ci d'un film contemporain. Hier est sorti le dernier film de Paul Vecchiali, un cinéaste qu'on connaît depuis pas mal d'années, puisqu'il a commencé sa carrière en 1965 et qui n'avait pas donné beaucoup de nouvelles depuis une dizaine d'années. On l'a beaucoup vu, surtout ses films dans les années 70, 80 et un peu 90, puis après il a peu à peu disparu des radars. Et là il revient avec un dernier film très beau, qui est une sorte d'adaptation très personnelle des Nuits Blanches de Dostoïevski, avec un duo d'acteurs formé donc par Pascal Cerveau et Astrid Adverbe. Ça se passe sur une jetée à Sainte-Maxime, et ce sont deux personnages qui se retrouvent pendant quatre nuits. C'est effectivement les Nuits Blanches de Dostoïevski. C'est assez littéraire, c'est très beau, c'est effectivement un objet très intempestif, on pourrait dire, dans le cinéma contemporain. C'est un peu une bande-annonce aussi pour nous dans Cinémasong, puisque la semaine prochaine, on consacrera une émission entière à Paul Vecchiali, dont, par ailleurs, les quelques films ressortent à partir du 11 février. Quatre films des années 70, Change pas de main, Corps à cœur, L'étrangleur et Femme-femme, notamment. Puis ensuite, il y aura une nouvelle salve en juillet, des DVD également qui sortiront fin février, d'autres films, La machine, c'est la vie, notamment. Voilà, donc on pourra redécouvrir ce cinéaste qui est à la fois un grand cinéaste, mais c'est un grand cinéaste français méconnu. En tout cas, vous pouvez déjà aller voir Nuit Blanche sur la jetée, dans laquelle la musique est signée par un duo de musiciens qui se fait appeler Catherine Vincent. En réalité, c'est un duo formé par Catherine Estrade et Vincent Comaret. Paul Vecchiali avait plutôt l'habitude de travailler avec un musicien qui s'appelle Roland Vincent. Bon, aucun lien donc entre ce duo Catherine Vincent et Roland Vincent. Mais cette fois-ci, il a changé un peu de style. Il nous l'expliquera plus précisément la semaine prochaine lors de l'émission qui lui sera consacrée. Je vous propose d'écouter la chanson du film qui, en fait, se situe à la toute fin. Elle clôt le film et elle est interprétée notamment par Catherine Estrade, Vincent Comaret et Alberta Comaret.
Femme, ô mes désirs, vos soupirs, ô mon âme, ô ma flamme, ô mes désirs, vos soupirs. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Je peux passer des nuits blanches à vous espérer. Serez-vous là chaque soir sur la jetée, je veux rêver, vous enlacer, vous m'emporter. Sur la jetée, on danse, allons valser. Vous m'enlacez. Sur la jetée, vous m'emportez, on danse.
La chanson qui clôt le film, le dernier film de Paul Vecchiali, Nuit Blanche sur la jetée, sortie en salle hier, mercredi. Donc, actualité Paul Vecchiali, donc tous azimuts dans les prochaines semaines. Et puis, actualité Paul Vecchiali dans Cinéma Song la semaine prochaine, où il ne sera donc notre invité, où il évoquera l'ensemble de sa carrière, notamment évidemment sous un prisme tout à fait musical. Donc, un duo de musiciens, Vincent Comaret et Catherine Estrade, sont les auteurs de la musique de ce film, notamment de cette chanson, dont les paroles sont évidemment signées Paul Vecchiali, puisqu'il a signé beaucoup de paroles, de chansons dans ses films. Il y a pas mal de chansons, il faut dire, dans la majorité de ses films. Et ce duo donc, se fait appeler Catherine Vincent et voilà, ponctue le film, notamment avec cette valse que les interprètes Astrid Adverbe et Pascal Cerveau dansent à un moment donné, à un autre moment dans le film. En tout cas, voilà, c'était un très beau film. Et puis je voulais revenir juste un instant en arrière sur Le Cri du sorcier de Skolimowski, dont je parlais juste avant, pour vous signaler quand même que la musique et les environnements sonores de ce film, qui est quand même très très qui sont très chargés et très passionnants, tout comme d'ailleurs la dimension plastique visuelle du film, sont signés par Rupert Hine, Tony Banks et Mike Rutherford, qui sont des éminents personnages de la pop anglaise. Il fallait quand même que ce soit dit.
Quando c'è la spirale, la vita non conta più, ucciderei subito. Sono pazza, sì, sono pazza. Perché, perché c'è noi questa spirale? Ma la luce.
città in questo solo vale. Perché alla scena
c'est la chanteuse Mina qui ouvre cette partie d'émission consacrée au cinéaste italien Elio Petri, qu'on redécouvre, qu'on ne finit pas de redécouvrir, en tout cas en France depuis quelques années, puisque plusieurs de ses films ont été réédités au fil du temps, depuis 3 ou 4 ans, 5 ans. Voilà, on en reparlera au long de cette émission. On peut penser notamment à son premier film, L'Assassin, ou également La propriété, c'est plus le vol, qui a été également édité en DVD il n'y a pas tellement longtemps chez Tamassa. Et puis là, on ressort Carlotta, donc qui avait déjà sorti L'Assassin et également Enquête sur un citoyen dessus de tout soupçon en DVD, notamment, ressort aujourd'hui, enfin hier, dans les salles, un film assez étonnant de Elio Petri qui s'appelle La dixième victime, qui appartient plutôt à la première partie de sa carrière. Mais même si la première partie de sa carrière était, on va dire, plutôt dans une influence post-néoréaliste, un tout petit peu antonionienne, là on est dans un film un peu différent, un film de science-fiction d'après l'œuvre de Robert Sheckley, écrivain américain, et un film avec Ursula Andress et Marcello Mastroianni, un film très pop qui peut faire penser d'une certaine façon au Alphaville de Godard, qui a été réalisé d'ailleurs exactement à la même époque, mais avec des couleurs extrêmement chatoyantes, et puis une vision de Rome assez futuriste. C'est l'histoire c'est une espèce d'anticipation de la télé-réalité, ce film, avec en même temps voilà, la possibilité, des chasses sont organisées donc dans le futur dans différentes villes du monde, notamment à New York et à Rome, et donc deux personnages s'affrontent, et à la fin il y en a un des deux qui meurt, et c'est autorisé par les autorités, si je puis dire, et c'est une façon, semble-t-il, de canaliser la violence. C'est évidemment un film politique, satirique, et je le disais donc éminemment pop, également d'un point de vue musical, où Piero Piccioni, qui était le premier musicien de Elio Petri, fait feu de tout bois, alors à la fois sur des versants très pop, alors notamment avec cette chanson qu'on a entendue, et puis à certains autres moments, il retrouve son vocabulaire jazz, qui était un peu sa première époque, musicalement parlant, à Piero Piccioni, comme beaucoup des musiciens italiens de cette génération. Il a été formé par le jazz. On va revenir un peu voilà, sur cette carrière d'Elio Petri, qui était finalement assez courte, puisqu'il fait son premier film en 1962 et qu'il meurt en 1982 d'un cancer. Donc 20 ans de carrière, une douzaine de films et puis beaucoup d'aspects musicaux très intéressants. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de la bande originale de La dixième victime, La decima vittima, qu'il faut vraiment aller voir en salle, avec une magnifique copie en plus restaurée, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis un extrait également de la bande originale du premier long métrage de Piero Piccioni, toujours déjà, si je puis dire, avec Marcello Mastroianni et également Micheline Prel. Alors là, c'est le Piero Piccioni franchement jazz qu'on va redécouvrir ici. Thank you. Piccioni, Piero Piccioni, très moderne jazz quartet pour le thème de L'Assassin, le premier film d'Elio Petri en 1962 et auparavant un Piccioni plus Guy-Lévans, on pourrait dire, pour cet extrait de la bande originale de La Dixième Victime, paru d'ailleurs cette bande originale sur le bien nommé label Easy Tempo, label italien spécialisé dans la réédition de musique de film justement de cette époque, des années 60. La Dixième Victime, 1965, je le disais, film prophétique pop, qui est d'ailleurs tiré d'une nouvelle de Robert Sheckley qui avait été de nouveau adapté par Yves Boisset au début des années 80 dans un film qui s'appelait Le Prix du Danger. C'est la même nouvelle qui est à l'origine des deux films très différents, esthétiquement parlant par ailleurs. La Dixième Victime, donc, qui ressort donc depuis hier dans les salles par les bons soins de Carlotta. Et Piero Piccioni, on le retrouvera d'ailleurs plus longuement dans deux semaines pour l'hommage qu'on rendra dans Cinéma Song à Francesco Rosi, le grand cinéaste italien disparu récemment, puisqu'il a été vraiment le compagnon de route de Rosi tout au long de sa carrière. Pour Elio Petri, ça s'est terminé un peu plus rapidement, puisque après La Dixième Victime, Piccioni ne retravaillera pas avec Elio Petri, dont il est peut-être temps de dire un mot, en tout cas de sa biographie. Il est né donc le 29 janvier 1929 à Rome et mort dans la même ville le 10 novembre 1982. C'est un fils d'ouvrier qui a flirté avec le Parti communiste dans les années 50 pour le quitter en 1956, comme beaucoup d'ailleurs de membres du parti, après l'écrasement de l'insurrection hongroise qui avait évidemment marqué les esprits. Puis c'est par l'intermédiaire de Giuseppe De Santis, qui est un grand cinéaste néo-réaliste, notamment l'auteur de Riz amer, que Elio Petri met le pied à l'étrier. Il est scénariste aussi des Monstres, le film à sketch de Dino Rizzi, puis il commence sa carrière vraiment avec L'Assassin, je le disais, donc en 1961 et non pas en 1962. Il poursuit avec un beau film qui ne sera pas présent ce soir musicalement parlant, qui s'appelle Giornali Contati, deux films donc qui flirtent déjà avec une certaine étrangeté, voire même avec des petites touches de fantastique. Et puis c'est donc cette Dixième Victime, donc film de science-fiction. Et puis ensuite il attaque une autre partie de sa carrière, peut-être plus directement politique, même si elle n'est pas absente d'un film comme La Dixième Victime, la politique, avec notamment À chacun son dû en 1967, A Cacciuno il suo, film tiré du roman de Leonardo Sciascia, le grand écrivain sicilien qui a beaucoup exploré les méandres criminels de la mafia. Et c'est un film enquête avec Gian Maria Volonté qui essaye de tirer au clair une affaire de meurtre et puis qui va y laisser sa peau. C'est avec donc Gian Maria Volonté qui sera un peu un des acteurs fétiches, avec Marcello Mastroianni et un acteur moins connu qui s'appelle Salvo Rondone des films de Petri. On y retrouve également Irène Papas et Gabriele Ferzetti. Et c'est un film à découvrir qui malheureusement n'existe en DVD qu'en Italie, avec une excellente BO de Luis Bacalov, compositeur dont on a pas mal parlé la semaine dernière pour l'émission sur le western italien, compositeur d'origine argentine qui produit, alors c'est sa seule collaboration avec Petri, mais c'est une collaboration très réussie. La bande originale est ressortie il n'y a pas tellement longtemps sur le label espagnol Quartet Record. Je vous propose d'en écouter deux extraits.
Thank you.
Deux extraits de la bande originale de A Cascuno il Suo, à chacun son dû, deux extraits signés Luis Bacalov, à l'instant une samba, comme les Italiens aimaient en faire, mais c'est un Argentin en l'occurrence qui l'a composé, puisque Bacalov est d'origine argentine, et auparavant L'Aggressione, un autre extrait qui est un peu différent donc de la bande originale de ce film qui obtint le prix du scénario au Festival de Cannes en 1967. Ça ne sera pas le, c'est le premier prix que Petri obtint à Cannes, mais ça ne sera pas le dernier, comme on le verra plus tard. Alors, Petri a donné toujours beaucoup de place à la musique dans ses films, c'est une de ses caractéristiques, avec sa dimension politique et de plus en plus agressive d'ailleurs au fil du temps, je parle de sa dimension politique. Et entre temps, alors il y a un film où il donne beaucoup de place à la musique, encore plus que d'habitude. C'est un film qui s'appelle Un tranquillo posto di campagna, un coin tranquille à la campagne, avec Franco Nero et Vanessa Redgrave, deux icônes des années 60. Franco Nero plutôt pour le western, et Vanessa Redgrave on l'a vu plutôt dans des films comme Blow Up d'Antonioni. Et ce film marque la rencontre d'Elio Petri avec Ennio Morricone, qui va être son musicien de prédilection jusqu'à la fin de sa carrière au début des années 80. Et Morricone d'ailleurs a toujours dit que, en dehors de Sergio Leone, c'est Elio Petri qui était le cinéaste avec lequel il s'était le mieux entendu, qui lui avait donné la possibilité de développer sa musique de la façon la plus personnelle, et notamment dans cet étonnant Un coin tranquille à la campagne, qui est un mélange, on va dire, de films modernistes influencés par le Bergman de l'époque, personnel, L'heure du loup, et puis un peu Godard, et en même temps on y retrouve également un peu des influences de Giallo par-ci, par-là. En tout cas, c'est un film où il y a beaucoup de fantasmes autour d'un peintre, donc joué par Franco Nero, réfugié dans une maison de campagne, qui voit des apparitions d'une femme. On va écouter ce que Morricone a fait pour ce film, qui se rapproche, je dirais, de façon la plus nette de ses influences contemporaines, puisqu'on sait que Ennio Morricone était plutôt attiré par la musique contemporaine que par, a priori, la pop, même si il a pratiqué les deux avec la même maestria. Thank you. Ennio Morricone, compositeur contemporain, littéralement pour la bande originale de ce film Tranquillo Posto di Campagna, un coin tranquille à la campagne, film finalement assez cauchemardesque, et la musique accompagne précisément les visions du personnage joué par Franco Nero, héros de ce film, donc qui n'a pas été un énorme succès, tout comme la plupart des premiers films de Petri. La reconnaissance viendra dans pas très longtemps, en 1970, avec Enquête sur un citoyen de sous-soupçon, cela dit, puisque Morricone considère que cette bande originale est une de ses plus importantes. On va en écouter un autre extrait un peu différent, mais qui reste plutôt sur le mode de la dissonance. Et puis un extrait justement d'une bande originale qui est la plus célèbre des films d'Elio Petri et une des plus célèbres de Ennio Morricone, justement Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Mais d'abord, un coin tranquille à la campagne à nouveau.
Thank you.
sans doute reconnu des échos du thème principal de cette bande originale célébrissime de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, signé Ennio Morricone. Ça n'était pas la version Princeps, on pourrait dire, que j'ai choisi de vous faire écouter, mais enfin bon, on le reconnaissait néanmoins. Et auparavant, un autre extrait donc de la bande originale de Un coin tranquille à la campagne, toujours signé Ennio Morricone, une bande originale pour laquelle il avait collaboré avec son groupe d'improvisation contemporaine qui s'appelait Nuova Consonanza. Alors, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de Petri, puisque d'une part, la reconnaissance va le toucher directement, il va obtenir le Grand Prix spécial du jury, et puis c'est aussi un nouveau chapitre parce que ce film forme avec les deux suivants, La classe ouvrière va au paradis et La propriété c'est plus le vol, une sorte de trilogie acide, grotesque et politique. Cette fois, dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, c'est un flic totalement pourri, joué par Gian Maria Volonté, qui assassine sa maîtresse au début du film et qui va tout faire pour montrer qu'il a effectivement une sorte d'impunité totale dans sa position de flic. On est au tout début de ce qu'on a appelé les années de plomb en Italie, c'est-à-dire la période marquée par des tensions, par les attentats à la fois du côté des Brigades Rouges mais aussi de l'extrême droite. Donc Petri va accompagner tout ça. Je disais donc une trilogie avec ce premier film, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon sur le pouvoir. Le deuxième, La classe ouvrière va au paradis, sur la production, le monde ouvrier. Et puis le troisième, sur l'argent. La classe ouvrière va au paradis, c'est le film suivant donc, qui obtient la Palme d'Or ex aequo avec l'affaire Mattei de Francesco Rosi en 1972. Petri était moins reconnu que Rosi à l'époque. C'est un cinéaste assez inclassable, assez irrécupérable, qui dérangeait pas mal de monde et qui aimait faire des films dérangeants. Et c'est le cas d'ailleurs de la plupart de ses films quand on les revoit encore aujourd'hui. Je vous propose d'écouter là encore le thème de La classe ouvrière va au paradis, toujours signé Ennio Morricone.
France Musique.
We'll be right back.
Ennio Morricone est en pleine forme en 1972 pour la bande originale de La classe ouvrière va au paradis, Palme d'or à Cannes ex aequo avec donc l'affaire Mattei dans Francesco Rosi et La classe ouvrière va au paradis. C'est bien sûr Elio Petri, nous sommes toujours en train de parler de ce cinéaste italien dans Cinéma Song sur France Musique. Et voilà, c'est un film qui a marqué là aussi une reconnaissance internationale pour Petri, mais c'est un cinéaste qui reste assez irrécupérable idéologiquement, qui est à la fois dans un cinéma politique mais qui n'est pas dans ce qu'on appelle la fiction de gauche militante, qui flirte avec la comédie mais qui n'est pas non plus tout à fait dans la comédie italienne. Enfin, c'est voilà, un cinéaste finalement qui va vers une forme de stylisation très très personnelle à laquelle la musique de Morricone notamment participe pleinement, avec voilà ces touches à la fois pop, un peu grotesques, parfois proches de la musique contemporaine. On va poursuivre avec et terminer d'ailleurs avec la dernière partie de carrière de Petri, dans laquelle on retrouve justement le troisième volet de cette trilogie, La propriété, c'est plus le vol, qui se rapproche un peu de la farce, mais une farce très grinçante sur l'argent, avec Ugo Tognazzi dans le rôle d'un boucher très riche qui se fait vampiriser par un jeune homme qui découvre que l'argent voilà, est une chose absolument horrible, qui travaille dans une banque. Et alors, c'est un film assez dérangeant et très passionnant. Petri signera encore Todo Modo, qui avait eu un certain impact à l'époque, autour d'une sorte d'apologue autour de la démocratie chrétienne qui flirte avec le fantastique. D'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouve dans pas mal de films de Petri. Et puis, signera encore pour la télévision un film en trois parties qui est une adaptation des Massals de Jean-Paul Sartre que je n'ai pas vu. On y retrouve d'ailleurs Marcello Mastroianni, tout comme dans Todo Modo, et Gian Maria Volonté est également dans Todo Modo. Bah, je vous propose voilà, de terminer avec La propriété, c'est plus le vol, et puis Les Massals, Les Mani Sporchi, toujours dans l'univers d'Ennio Morricone, là avec un extrait sonore de La propriété, c'est plus le vol d'abord.
Apro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. I soldi sono già depositati?
Certo.
E allora mani in alto.
Scusi?
Mani in alto!
Mani in alto! Questa è una rapina! Mani in alto!
Oh! Indietro! Indietro!
Mani in alto! Al muro!
Con me!
Non per me!
Tutti al muro!
I soldi, mani in testa!
Sto fermo, che fai?
Prendimi. Prende tutti. Tutta la casa. Sverto.
Giovanotto, rifletta bene a quello che sta facendo.
Che bello, ancora siamo tutti!
Sverti!
Muovete!
Calma, calma.
Dai, 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 te lo fa, su!
I cani! I cani! No! Giovanni! Giovanni!
Giovanni! Oh! Nave!
Aiuto!
Prego, signori, tornate ai vostri posti, tornate al lavoro.
Iena, sciacallo, morto de pan, mortacci tua. Alla forca, e fallo maniare.
Stia attento, dottore, la qua.
E lasciami sfogare. Prima che si portano via. Andate via. Stronzo. Lasciami sfogare.
Thank you.
Un extrait de la bande originale d'un film peu connu, réalisé pour la télévision donc par Elio Petri, Les Mani Sporchi, Les Mains Sales, donc une adaptation du roman de Jean-Paul Sartre pour la télévision en 3 épisodes, pour la RAI en 1978, un des derniers travaux de Petri pour le cinéma. Il y aura encore un dernier film qu'on ne connaît pas en France qui s'appelle Les Buones Notizie. Et auparavant, donc une musique de Ennio Morricone, et auparavant un extrait de La propriété, c'est plus le vol, hein, une scène de hold-up un peu grotesque et assez ratée, pas la scène mais le hold-up, toujours avec la musique d'Ennio Morricone, la voix de Ugo Tognazzi, quelques coups de feu. Ce film est disponible chez Tamassa en DVD, tout comme d'ailleurs d'autres films de Io Petri, notamment je pense aux Giornali Contati, Les Jours Comptés, les autres films qu'on peut trouver, ainsi que La classe ouvrière va au paradis, toujours chez Tamassa. Chez Carlotta, on trouve Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, L'assassin, et puis La dixième victime, pas encore en DVD, mais déjà en salle, donc depuis hier, que vous pouvez aller découvrir cet étonnant film pop de science-fiction assez visionnaire. La télé-réalité, je le disais, 40-50 ans avant son apparition, ou 40 ans avant son apparition en tout cas. Voilà, à découvrir en tout cas Elio Petri, et c'est maintenant l'heure, en attendant la suite de la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dis, Trico, tu aimes ça, la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Parmi les sorties de films cette semaine, Thierry, il y a le très attendu The Imitation Game du réalisateur norvégien Mortel Tindom. Alors, The Imitation Game est une adaptation en fait d'une histoire vraie au cinéma, celle d'Alan Turing, mathématicien à qui l'on doit d'avoir su décrypter Enigma, donc cette fameuse machine de cryptage allemand, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également, c'est à lui aussi qu'on doit les prémices hein, de l'intelligence artificielle, en tout cas des premiers ordinateurs. Et puis Alan Turing donc est mort empoisonné à cause justement d'un traitement chimique qu'il a dû subir parce qu'il était homosexuel dans les années 50. Donc l'histoire de Turing est vraiment hors norme, vraiment passionnante. Donc pour ce film, qui lui est d'une forme quand même assez classique, presque trop parfois je pourrais dire Thierry, à mon sens, eh bien c'est Alexandre Desplat qui a fait la composition de cette BO. C'est une bande originale en fait qui comporte deux éléments de composition, hein, qui s'entremêlent en fait, mais qui ne sont pas aussi bons l'un que l'autre. Alors il y a le plus intéressant, il repose en fait sur une musique répétitive, parfois, ça fait un peu penser au répétitif américain, il faut bien avouer. Desplat en fait s'inspire des calculs répétés de l'ordinateur, donc en fait de cette machine de Turing. Et il a utilisé pour ça en fait des pianos, 3 pianos numérisés, et il les joue en fait, enfin c'est joué selon un algorithme aléatoire avec donc des gammes arpégées et de façon très rapide. Ça donne un effet quand même assez étonnant, des sonorités vraiment curieuses. Et puis de l'autre, eh bien, il y a en fait ce que Tildum a demandé à Desplat, c'est-à-dire une musique pour illustrer à la fois une romance ainsi que la course en fait des scientifiques pour décrypter le plus rapidement possible les codes d'Enigma. Et là c'est le London Symphony Orchestra qui interprète ces moments-là. Alors c'est beaucoup plus conventionnel. Ceci explique un petit peu qu'il y ait des passages un peu plus mièvres dans cette bande originale, mais il y a quand même aussi énormément de moments très intéressants comme celui-ci.
Thank you.
Voilà un extrait de la bande originale du film The Imitation Game, composé par Alexandre Desplat. Donc vraiment une bande originale intéressante, mais quand même inégale, parfois conventionnelle, mais avec des couleurs musicales, comme vous avez entendu, qui sortent quand même pas mal de l'ordinaire. Alors la bande originale est, elle, disponible chez Sony Classical. En fait, elle est sortie depuis le mois de novembre, même si le film, lui, est sorti sur les écrans français depuis hier seulement. Et puis il faut préciser qu'Alexandre Desplat est quand même en compétition aux Oscars pour ce film, The Imitation Game, ainsi que Grand Budapest Hotel.
Il va peut-être finir par l'obtenir.
Il va peut-être cette année effectivement l'avoir. Et puis donc hier est également sorti sur les écrans le film Pionnier du réalisateur Erik Skjoldjæger. Alors c'est un thriller aquatique et politique vraiment intéressant sur l'exploitation en fait du pétrole norvégien au début des années 80 et des plongeurs utilisés en fait comme cobayes à cette occasion. La musique de Pionnier est du groupe R, donc groupe français bien sûr, hein, que l'on connaît notamment pour avoir fait les musiques de Virgin Suicide et qu'on entend également dans Lost in Translation de Sofia Coppola. C'est Erik Skjoldjæger qui voulait une BO qui soit... Il avait demandé au compositeur tout simplement d'avoir un langage universel parce que justement dans le film on a les Américains et les Norvégiens qui discutent et qui parfois donc n'ont pas évidemment la même langue. Skjoldjæger voulait quelque chose donc un peu entre les deux. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. D'ailleurs le producteur Christian Fredrik Martin voulait lui par contre dans ce film avoir à la fois de la musique électro justement comme R sait faire et en même temps quelque chose eh bien de plus classique comme score. Et c'est ce que le groupe a tenté de faire, ce qui donne là aussi une bande originale assez étonnante, c'est-à-dire que des fois on a l'impression que la musique est superbe mais pas adaptée au film. Ça c'est un peu particulier Thierry. Voilà, c'est un extrait de la bande originale du film Pionnier. Alors vous entendez, ça c'est la musique de R. C'est quand même pas très fréquent chez eux. Et c'est pendant une course-poursuite.
Ça a l'air intéressant en tout cas.
C'est intéressant, mais c'est très étonnant dans le film. Faut quand même admettre. Et puis alors donc, la BO, elle n'est malheureusement pas disponible Thierry pour l'instant. J'ai appelé le producteur et il n'a pas su me dire pour l'instant.
Ça viendra peut-être ultérieurement dans une compilation ou quelque
espérons,
chose.
Espérons.
Ça arrive parfois. Hein, donc voilà. Bon, en tout cas, merci Charles-Pierre pour ces informations et ces appréciations. Et à la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau Essentiel BO. Alors pour terminer cette émission, on va aller à la rencontre d'un metteur en scène de théâtre, une fois n'est pas coutume dans Cinéma Song, Mathieu Bauer, fondateur de la compagnie Sentimental Bourreau et directeur depuis 2011 du nouveau théâtre de Montreuil, dans lequel il vient de monter, il monte en ce moment même, puisque le spectacle a lieu jusqu'au 14 février, un spectacle donc qui s'appelle The Haunting Melody, la mélodie fantôme, accompagné par 5 acteurs, performeurs, chanteurs, musiciens, Thomas Blanchard, Sylvain Cartigny, Mathias Girbig, Pauline Skirji et Kate Strong, qui font beaucoup pour la qualité, le côté vivant de ce spectacle. Mathieu Bauer est également sur scène. Donc il s'agit de 6 personnages qui essayent de composer une bande originale de films d'horreur sur scène. Et puis en réalité, il y a pas mal de digressions autour de la recherche d'une mélodie fantôme, autour de la chanson. Tout ça mélangé dans un spectacle extrêmement vivant et très fluide en même temps, qui ne raconte pas vraiment une histoire, mais plutôt qui met en scène des personnages à la recherche de leurs propres obsessions. On va écouter tout de suite Mathieu Bauer, à qui j'ai demandé qu'est-ce que lui évoquait la notion de bande-son.
Alors la Alors évidemment, la bande-son, tout de suite, on pense au cinéma, et c'est un lieu où je me suis réfugié, pour éviter peut-être l'école ou éviter autre chose. Je me suis souvent retrouvé dans les salles obscures, comme disait... voilà, j'ai fait un travail autour de Serge Danet, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Peut-être même avec une petite confusion et une identification un peu outre mesure, on va le dire comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé me réfugier dans la fiction et dans les bandes-sons diverses et variées, particulièrement dans les salles obscures, à tel point qu'à un moment donné, je diffusais dans ma propre maison, sur les DVD, sans l'image, des bandes-sons, enfin grâce aux DVD d'ailleurs, il faut bien le dire, les bandes-sons de films qui m'ont marqué, Les Contrebandiers de Moonfleet, enfin tous ces films que j'ai profondément aimés. J'adorais faire ma vaisselle avec James Stewart et Kim Novak, ou Stewart Granger, ou les films de Hitchcock, ou voilà, je restais comme ça, ou évidemment Fellini, puisque les bandes-sons sont absolument délicieuses, magnifiques, empreintes d'une mélancolie... absolument incroyable. Donc les bandes sont très importantes, et puis après le rapport à la musique, puisque de formation, pour le faire très rapidement, je suis plutôt musicien, une formation un peu solide, on va dire, sinon plutôt un touche-à-tout, un butineur, un autodidacte, sauf pour la musique, où là il y avait, j'ai très vite ouais, appris la musique, donc un rapport à la musique qui était très très important, et qui pour le coup, ouais, Max Roach, on va dire, peut-être le batteur qui m'a le plus... comme ça, touché, impressionné, que j'ai vu en concert en plus, à plusieurs reprises. Ouais, Max Roach, on va dire.
You here? We asked you a question.
Don't you touch that! That's my letter, my mother's letter.
Dans The Haunting Melody, vous mélangez, on va dire, plusieurs choses, et notamment l'idée que quelques personnages sont réunis dans un studio qui est une sorte de laboratoire en même temps pour essayer de composer une bande-son de film d'horreur, ou peut-être pas que d'horreur d'ailleurs, mais en tout cas pris explicitement film d'horreur dans un premier temps, et puis tout un environnement musical et sonore qui tourne autour de la recherche d'une mélodie, la fameuse The Haunting Melody, et qui s'appuie un peu sur les écrits de Peter Zandi. D'où est venue l'idée de ce spectacle, et notamment de réunir ces personnages dans un studio de son pour cette hypothèse donc de bande-son de film d'horreur?
Alors l'idée est née d'abord de mes lectures, celle de, évidemment, des livres de Peter Zandi, deux bouquin en particulier, Écoute, une histoire de nos oreilles, donc archéologie de nos écoutes, etc. Et puis un autre qui est un ouvrage absolument délicieux qui s'appelle Tube, la philosophie dans le jukebox. Et Peter Zandi à chaque fois s'amuse comme ça à interroger, on va dire, particulièrement dans Tube, des mélodies qui nous hantent, qui nous accompagnent, qu'on n'arrive pas à se débarrasser, qui surgissent à un coin de rue de façon inattendue, et bah, il les interroge d'un point de vue psychanalytique, historique, économique parfois, puisqu'il y a Marx qui est souvent là sur l'économie, effectivement, ce type de chansons, en tout cas particulièrement pour les tubes. Et il me fallait un contexte pour, à un moment donné, pouvoir convoquer d'une certaine façon. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est-à-dire ce montage, ce type de montage de texte. Et il se trouve que dans le dernier spectacle, la question des zombies, comme ça, est une figure qui m'intéresse pas mal, mais je suis pas le seul actuellement à s'intéresser à cette figure-là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait être le contexte idéal, un studio d'enregistrement où je peux réunir un certain nombre de personnages qui sont tous hantés ou tous habités par une relation au son et à la musique très particulière. Et qui me permettrait de faire toutes les digressions possibles. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais le premier film de zombies qui a existé, que j'ai adoré, qui est La Nuit des Morts Vivants, de Romero, 1968, qui est une critique en plus assez acerbe de la société américaine de l'époque. Et je pense qu'on aurait besoin peut-être d'être aussi franc du collier actuellement sur un certain nombre de choses. Puis cette figure un peu emblématique comme ça et ambiguë du zombie, est-ce qu'on est mort, est-ce qu'on est soumis, etc., etc., qui correspondait d'une certaine façon. Et puis aussi ces bandes-sons qui, soit elles sont totalement saturées, c'est gore, la musique à fond, ou dans le silence le plus absolu, puisqu'il ne faut absolument pas réveiller les démons, il faut se cacher, il faut se soustraire à tout son, justement, pour se faire manger. Donc tout ça réuni, je me suis dit, c'est peut-être le contexte idéal pour parler et effectivement évoquer les textes de Zendi. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai complété, si j'ose dire, ma collection de différents textes. Moi, j'en ai réécrit. Il y a des figures comme John Cage, il y a Luigi Russolo, il y a Yankelevitch, il y a Adorno. Enfin, tous les gens qui sont à un moment donné intéressés à cette question de l'écoute et de quel rapport on a à l'écoute, quel type d'écouteur on est. Ça n'existe pas d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent en mot voyeur. Donc, on le cherche. Est-ce qu'il y a des gros plans sonores Et puis aussi, ce rapport très intime, donc ça je l'ai dit, à la musique, et puis cette chose qui est finalement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus subi le son. C'est-à-dire que comme c'est une notion passive, souvent assimilée à une notion passive, on subit d'une certaine façon une pollution sonore sans s'en rendre compte. Et je dois avouer que moi, ces 10-15 dernières années, j'ai adoré le film de Mathieu Amalric dans Tournée, puisque le personnage de Mathieu Amalric n'arrête pas de demander dans chaque lieu où il rentre, vous pouvez baisser la, je vous en supplie, baissez la musique, arrêtez la musique, même dans la station service. Et je me sens alors là vraiment en empathie avec ce personnage là c'est que de temps en temps j'ai vraiment envie qu'on arrête de me diffuser en permanence une musique je n'ai même pas envie de juger. C'est pas le problème de la qualité de la musique, puisque là on rentrerait dans des considérations de jugement et tout ça, mais juste qu'on me laisse le droit à un moment donné de pouvoir entendre ou ne pas entendre un certain nombre de choses. Voilà, donc tout ça réuni, envie de parler de la musique énormément, puisque j'ai beaucoup parlé de cinéma, de cadres, de plans, de montage et tout ça dans des spectacles précédents. Et là, j'avais envie de m'intéresser à cette notion-là, souvent mineure, donc, comme je viens de le dire. Et voilà, Barthes en a parlé très très bien. Et au fur et à mesure, j'ai construit toute cette histoire de 10h du matin à minuit. 6 personnages doivent construire une bande-son, mais c'est un prétexte, évidemment, pour chacun d'entre ces personnages. Je vous parle plutôt des bandes-son de sa vie et de leur propre vie. Et leur propre vie est généralement assez hantée par des histoires ou un rapport au son très particulier, très singulier.
Il y avait de beaux fantômes qui habitaient la salle hier. Et des spectres. Dominique, vous les aviez enregistrés, ces spectres? Qu'est-ce qu'on a eu déjà?
Welcome to the Machine, chanson des Pink Floyd.
Oui. Je me souviens. Ce jeune homme, et quoi d'autre encore?
Dire Straits. Non, je peux pas le chanter. Je sais plus.
Et quoi encore?
Un morceau de Patti Smith.
Dans The Haunting Melody, vous mélangez, on va dire, plusieurs choses, et notamment l'idée que quelques personnages sont réunis dans un studio qui est une sorte de laboratoire en même temps pour essayer de composer une bande-son de film d'horreur, ou peut-être pas que d'horreur d'ailleurs, mais en tout cas...
Parce qu'à la fin, il crie, elle m'oublie et j'ai mal, mais ça, je sais pas le faire.
Mais la question du montage me passionne, évidemment, j'ai toujours... C'est peut-être pour ça que j'ai fait du théâtre aussi, puisque beaucoup d'amour, amour du cinéma, amour des textes, de la musique, et que c'est vrai que c'est peut-être l'espace du théâtre qui me permet de réunir tous ces amours-là, qui n'est pas forcément vrai. On parle beaucoup du montage, et le montage comme étant l'écriture du cinéma à proprement parler, mais que je trouve moins intéressant actuellement, par exemple. Je trouve qu'on prend beaucoup moins de risques, et quand je revois quelques films muets de l'époque, je me dis, mais oh, quelle audace en termes d'écriture, je veux dire, en termes d'image, en termes de raccord, de montage parallèle, de surimpression d'image, etc. On fait beaucoup moins de choses comme ça maintenant et je suis un peu triste. Peut-être que le théâtre est le lieu, effectivement, où ça circule entre la musique, la littérature, les textes, le décor, des comédiens, de l'image. Alors, c'est des cadres. Hein. Bon, pendant très longtemps, j'ai utilisé la vidéo. Là, évidemment, je me suis refusé à toute image pour laisser surgir les images qui seraient liées à la bande-son qu'on entend et de construire directement une relation intime avec le son. Le théâtre est ce lieu-là, pour moi, le lieu du montage, plus que le lieu du texte classique, etc., etc., avec l'interprétation que ça demande. Voilà. En ce sens-là, je me compare souvent plus à un promeneur qu'à un marcheur. Qui aurait tendance à s'attaquer à un sommet, sachant très bien d'où il part. Voilà, que les sommets étant les classiques, les Tchekhov, voilà. Je préfère les promenades.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours. Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi.
Il y a un certain nombre de moments musicaux, bien sûr, dans le spectacle, et vous avez aussi choisi des morceaux parmi ceux qui figurent dans ce spectacle, qui vont de je crois, Malheur à Dalida, Parole, en passant par Nino Rota, qui apparaît plutôt vers la fin. Sur quels critères, comme vous avez choisi ces moments musicaux, il y a aussi un peu de musique originale, comment vous avez agencé ça, la musique à proprement parler?
Alors, paradoxalement, le plus compliqué, ça a été la musique originale, puisque finalement, Parole et Parole était issue directement de la réflexion de Peter Zendi autour de la quintessence du tube qui pourrait s'incarner à un moment donné dans Parole et Parole. C'est une banale histoire d'amour avec d'un côté un personnage qui parle, de l'autre côté un personnage qui chante, qui aura le dernier mot du chanter ou du parler, avec toujours cette même histoire de règlement de compte, etc. Et Zendi a écrit un texte absolument délicieux, formidable, d'une intelligence incroyable sur c'est ça le tube, c'est-à-dire cette ritournelle qui revient, et au moment où on pense que le parler va l'emporter sur le chanter ou que le chanter va l'emporter sur le parler, il y en a toujours un pour relancer, et c'est la ritournelle, voilà, et on est réellement dans la ritournelle. Donc il y avait toute cette démonstration, donc l'envie de m'attaquer directement à Parole Parole. Après, il y a nous on a fait une adaptation, une orchestration évidemment radicalement différente de celle de la version qu'on connaît. Voilà, pour Mahler, même chose, c'est le cas Mahler. Enfin, moi j'ai une tendresse toute particulière pour les lieds de Mahler, je suis pas le seul évidemment, mais une tendresse toute particulière. Mais souvent, Théodore Reck, qui a été le théoricien de ces vers d'oreille, de ces mélodies fantômes, le premier, qui était un élève de Freud, parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mahler, et on le retrouve dans un certain nombre de textes qu'il a écrits. Il me semblait comme ça qu'il y avait quelque chose qui pouvait venir habiter le spectacle autour de ce lied et qui permettait une entrée aussi dans une musique qui n'est pas forcément notre musique en plus, puisque moi je viens plutôt de l'improvisation, du jazz, du rock'n'roll, enfin de ce type de musique. J'avais fait une adaptation à l'époque de Tristan et Isolde de Wagner, mais qui était encore totalement différente. Mais voilà, là il y avait vraiment cette volonté aussi de convoquer tout cet univers-là. Et cet univers, cette ligne mélodique-là, cette mélodie-là, voilà. Le plus compliqué, finalement, c'était notre bande originale, Sylvain et moi-même, puisqu'on est, ça fait des années qu'on travaille ensemble, et Sylvain qui a fait toutes les adaptations de la musique et tout ça, c'est quelle place elle pouvait avoir à l'intérieur de ça. Donc on l'a fait à des... j'ai envie de dire en marge, sur des textes théoriques qu'on s'est amusé à construire effectivement en musique. Il y a un Barth Music Band qui est assez rigolo, où on retrace toutes les typologies d'écoute, celle d'Adorno, celle de Barth, etc., etc., puisqu'il y a eu des classifications qui ont été faites, mais c'était la plus compliquée de certaines façons. Ensuite, c'était la chose qui était vraiment évidente pour moi, c'était que la bande son devait être première, systématiquement. Il s'agissait toujours d'avoir d'abord de rentrer par le son et ensuite sortir par le théorique, plutôt que l'inverse, et de faire de l'illustration de théorique à partir du son. Sauf quand ça marchait réellement ensemble, type pour Parole-Parole, puisque là, le texte, d'une certaine façon, et la musique avancent de front se déploie de front. Mais je voulais systématiquement rentrer, en tout cas, par le sensible de la musique et d'en tirer, à un moment donné, d'une certaine façon, la réflexion, le théorique, le point de vue, le regard qu'on pouvait y porter, qui soit d'ordre, tout ce qu'on est politique, psychanalytique, etc. etc. Donc, c'est souvent la bande-son qui a... l'orchestration, j'ai envie de dire, puisque moi, je travaille beaucoup, je crois, comme ça. Enfin, c'est ce que me dit Sylvain. Il me fait, mais en fait, c'est un chef d'orchestre, donc sur des silences, sur des tensions, sur des respirations, sur évidemment des moments, des fortés, des pianissimo, etc., etc. Mais j'ai construit vraiment comme, des allers-retours avec... entre certaines, la musique classique, des bandes-sons en direct, et ensuite naissait d'une certaine façon la réflexion. Je crois que c'est mieux comme ça, ouais.
Mathieu Bauer, la voix de Mathieu Bauer, concepteur, metteur en scène et acteur également de son spectacle The Haunting Melody jusqu'au 14 février au Nouveau Théâtre de Montreuil, un spectacle passionnant et très vivant que je vous recommande. C'est une recommandation de Cinéma Song, donc une fois n'est pas coutume pour un spectacle théâtral. Alors ce soir, j'étais entouré par Dorothée Goll qui m'avait aidé à préparer cette émission. François Pron était à la cabine, Thomas Bizot au droit d'auteur et Clément Vuillet était à la technique, et Bruno Rioux-Maillard, l'impeccable Bruno Rioux-Maillard, réalisait lui ce Cinéma Song comme chaque semaine.